Récession, explosion du chômage, l'épidémie de Covid a durement frappé l'économie française. Pour relancer la machine, le gouvernement met 100 milliards d'euros sur la table sur 2 ans. C'est le fameux plan de relance qui sera détaillé aujourd'hui. Bonjour Mathieu Plane.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint de l'OFCE. 100 milliards, est-ce que c'est à la hauteur des enjeux selon vous? Emmanuel Macron dit que c'est l'un des plans les plus importants d'Europe.
Oui, c'est important, 100 milliards. C'est évident que c'est une somme même inédite hein, en termes de plan de relance. On est à la hauteur des enjeux. Hein. Quand on compare à l'Allemagne qui a mis 130 milliards, au regard du PIB, on est sur des montants comparables, c'est à peu près 4 points de PIB.
Mais l'Allemagne l'a fait un peu avant, par contre. L'Allemagne a présenté son plan de relance début juin. Est-ce que nous, on arrive un peu trop tard?
Alors, il y a deux choses. C'est que, bon, trop tard, c'est toujours difficile parce que 100 milliards à trouver et trouver les bons investissements et les bonnes mesures, c'est pas évident. Mais la question, elle est plutôt sur le timing global. C'est-à-dire que on voit bien que dans la communication, d'ailleurs, y compris du gouvernement, c'est pour préparer la France à 2030. C'est-à-dire qu'on est, à mon avis, plus dans un plan d'investissement qui est assez intéressant, notamment pour la question écologique, qu'un vrai plan de relance. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, notamment l'Allemagne, a un plan qui est de relance plus un plan d'investissement. Beaucoup de mesures, nous, vont s'étaler sur une durée assez longue. Et c'est vrai que ces 100 milliards ne seront pas forcément répartis que sur les 2 prochaines années, mais sur plusieurs années. Donc, effectivement, l'impact est un peu plus diffus que si vous faites 100 milliards sur 2 ans.
L'Allemagne a plus fait du court terme que nous, plus essayé d'aider ceux qui en avaient le plus besoin tout de suite maintenant, c'est ça? C'est ce qui manque chez nous?
Alors, moi, je trouve que c'est ce que je reprocherais à ce plan, c'est-à-dire qu'il manque vraiment d'outils propres à la crise et de relance pure, c'est-à-dire qu'on est dans un choc inédit. Hein. Faut pas oublier qu'on a perdu pratiquement 20% d'activité au premier semestre. Hein. Pour rappel, en 2009, dans le semestre le plus difficile, on était à moins 3, donc c'est 6 fois plus élevé. Donc c'est considérable, on a du mal à revenir au niveau d'activité dans beaucoup de secteurs. Donc la question qui se pose pour les prochains mois, c'est comment on fait pour relancer la machine très vite, pour faire qu'on n'ait pas des faillites en cascade, des plans de licenciement massifs. Et donc la question, c'est notamment du côté de la consommation, c'est comment on fait pour mobiliser l'épargne que les ménages ont accumulée. On a plus de 75 milliards, ce qui est incroyable, c'est que les ménages ont accumulé une épargne aussi historique, alors même qu'on est en crise. Et puis la question importante des entreprises qui va être leur solvabilité, c'est-à-dire qu'on a eu des pertes incroyables aussi du côté des entreprises, et donc on aura une problématique du côté des fonds propres. Et je trouve que par exemple la mesure sur les fonds propres est un peu sous-calibrée par rapport peut-être aux besoins.
Alors on va repasser en revue hein, ce plan qui a déjà été dévoilé en grande partie hier soir dans la presse et qui sera détaillé donc dans la journée officiellement par le Premier ministre. Grosso modo, c'est un tiers hein, sur ces 100 milliards. Oui. Il y a 30 milliards pour verdir l'économie, 35 milliards pour la compétitivité et la relocalisation des entreprises et 35 milliards pour la cohésion sociale et territoriale. Vous, qu'est-ce que vous retenez? Quelle est la mesure la plus forte à vos yeux?
La mesure la plus forte, elle est d'abord dans le package de transition écologique. C'est vrai que on voit, et notamment que l'Europe est insufflée aussi, cette volonté de faire un plan de relance qui soit plutôt tourné sur la transition écologique semble vraiment une bonne chose. D'avoir un tiers déjà, c'est important. Alors après, c'est effectivement disséminé dans beaucoup de mesures, que ce soit de la rénovation thermique des bâtiments, la mobilité, les transports, que ce soit le plan hydrogène. Donc on a quand même beaucoup de choses, donc c'est assez étalé. Mais après, la mesure phare, à mon avis, du gouvernement, il y en a, même j'en dirais deux, c'est la baisse des impôts sur la production. Mais là, on est sur une baisse 20 milliards. Donc on voit que dans les nouveaux montants en fait qui seront importés, les impôts sur la production sont une part importante. Alors, il faut savoir que c'est une mesure pérenne, elle n'est pas juste là le temps de la crise. Donc ce sera une baisse de 10 milliards des impôts sur la production de façon durable pour les entreprises. Donc c'est plutôt une mesure de compétitivité, c'est pas une mesure pure de relance, c'est plutôt une mesure de compétitivité. Et puis après, moi, vraiment la mesure qui me semble la plus adaptée à la crise depuis le début, c'est la mesure concernant le chômage partiel et avoir mis en place un dispositif de chômage partiel de longue durée pour encore 2 ans, pour donner la possibilité aux entreprises d'amortir le choc en évitant les licenciements ou des pertes de revenus trop importantes pour les ménages.
Et les 6,5 milliards d'euros pour les jeunes, pour l'emploi des jeunes,
oui,
moi
sûr.
Ça me semble beaucoup par rapport à ce qui se fait d'habitude. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que je me trompe?
Oui, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Alors c'est vrai que les jeunes sont, on va dire, les premières victimes économiques de la crise Covid. Ça a été les premiers aujourd'hui à se retrouver au chômage ou en difficulté, parce que c'est les plus précaires, et les plus précaires ont été les moins protégés dans cette crise, que c'est vrai que les destructions d'emplois sont passées plutôt par les fins de CDD ou les fins d'intérim. Or, Les jeunes sont surreprésentés dans cette catégorie-là. Et ont très peu d'aide sociale. C'est-à-dire quand vous avez moins de 25 ans, vous n'avez pas le droit au RSA socle. Donc vous ne pouvez pas avoir les minimums sociaux. Donc c'est vrai que d'avoir un plan jeune, c'est extrêmement important. La question qui se posera peut-être du côté de l'emploi, c'est pour les autres catégories du coup. C'est-à-dire que on a des exonérations importantes pour les jeunes, on a une prime pour les jeunes, et puis ça va passer plutôt par les formations, on va dire, pour les autres catégories. Mais est-ce que ça sera suffisant pour absorber justement le choc et justement les destructions d'emplois qu'on risque d'avoir? D'ailleurs, le gouvernement a parlé de 800 000 destructions d'emplois, donc ça reste quand même considérable.
Mathieu Plane, les différentes aides aux entreprises qui sont distillées à travers ce plan, est-ce qu'elles sont conditionnées? La CFDT, par exemple, dit qu'elle aimerait bien que les employeurs s'engagent en échange à créer, par exemple, des emplois de qualité. Est-ce qu'il y a des obligations de résultats, des objectifs?
Non, il n'y a pas, c'est pas conditionné. Effectivement, c'était un débat que porte notamment la CFDT, de dire ces mesures-là doivent être conditionnées. Alors c'est difficile parce qu'on a envie de dire oui, ça serait bien que ce soit conditionné de façon à pas déverser comme ça de l'argent sans avoir l'assurance d'un retour. Sauf qu'on est dans une situation extrêmement incertaine. Donc on voit que pour les entreprises s'engager sur un certain nombre de choses, c'est difficile, alors même qu'elles savent pas pour beaucoup si elles vont finir le mois ou l'année. On voit que c'est une première chose. Et puis, dans le timing, la rapidité. C'est-à-dire que si vous voulez mettre en place un certain nombre de mesures, le conditionnement nécessite pas mal de négociations. Or là, on est quand même dans une course contre la montre. Non, ce que je reprocherais moi plutôt, c'est que on fait une baisse d'impôts sur la production de 10 milliards sans l'accompagner d'une réforme fiscale. Et or, si on baisse de 10 milliards les impôts sur la production, il faudrait des ressources nouvelles ou en tout cas accompagner une réforme fiscale sur les entreprises un peu plus ambitieuse.
Ces 100 milliards, est-ce que c'est vraiment une nouvelle enveloppe, hein, c'est de l'argent qu'on met sur la table à partir de maintenant, ou est-ce que ça comprend déjà plusieurs des sommes débloquées en urgence depuis le printemps?
Alors, là, on n'a pas tout le détail. Ce qu'on peut savoir, c'est que, par exemple, ce qu'on appelle les PIA, hein, qui sont des plans d'investissement d'avenir, sont déjà des sommes qui existaient et qui vont être utilisées pour justement ce plan de relance, et notamment dans un certain nombre d'investissements, d'infrastructures, de transitions. Donc on voit qu'on a une partie qui était quand même déjà sur la table. Donc on peut pas dire que ce soit effectivement 100 milliards d'argent nouveau. Après, il y a des mesures qui vont trouver des développements budgétaires là dans les mois qui viennent, mais qui ont été annoncées avant. Par exemple, l'activité partielle, le chômage partiel de longue durée, on voit qu'on a à peu près 6 ou 7 milliards qui vont être affectés à ce plan-là, mais ça a été annoncé avant. Donc on n'a pas que des annonces nouvelles, mais globalement, on voit que la question, je pense, qui est peut-être centrale, c'est que sur ces 100 milliards, le gouvernement s'est engagé à mettre à peu près 30% sur 2021. Donc finalement, on aura 30 milliards sur 2021, ça représente un peu plus d'un point de PIB. C'est pas mal, mais c'est pas non plus considérable. Quand on compare 2009, on dit effectivement 100 milliards, c'est trois fois plus que 2009, mais sauf qu'en 2009, on avait mis 35 milliards, mais ça avait été beaucoup plus concentré dans le temps. Ça avait été essentiellement sur l'année 2009.
Et est-ce qu'on sait combien l'État a dépensé depuis le début de la crise, depuis le printemps au total?
Alors, on n'a pas encore le bilan budgétaire de tout ça. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, le plan d'urgence a été ambitieux en France, pour le coup, à travers le dispositif de chômage partiel. On a eu plus de 40 milliards qui ont été versés dans le cadre de l'activité partielle. Certainement un des plans les plus généreux d'Europe. De ce côté-là, la question qui se pose et peut-être qui n'est pas réglée et qui va être un vrai problème, c'est par exemple tous les prêts garantis par l'État. C'est-à-dire que on a eu plus de 120 milliards de prêts garantis par l'État depuis le début, ce qui est très bien parce que ça a assuré la trésorerie des entreprises et assurer leur fonctionnement, éviter les faillites, sauf que pour beaucoup d'entreprises, de PME, qui vont se retrouver là aujourd'hui avec des niveaux d'activité plus faibles qu'avant crise, vont se trouver face à un mur de dette. Et la question, c'est comment elles vont faire pour étaler cette dette et régler cette dette. Et j'ai l'impression que ça manque, par exemple, dans ce plan, de savoir comment ces dettes vont être remboursées et quels sont les mécanismes qui permettraient justement d'éviter les faillites.
Merci beaucoup, Mathieu Plane, pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de l'OFCE et vous étiez notre invité.